Donc, je remercie les organisateurs et toute l'équipe technique pour cette rencontre. Également, Christian Dick qui nous a proposé de formuler une thématique pour la rencontre. Et j'indique brièvement que la collaboration qui s'est engagée avec Mara Magda Mastei, professeur de lettres à l'Université de Bucarest, a été favorisé par les thématiques de la chaire éthique et finance du Collège d'études mondiales, fondée par Michel Wieborska, la Maison des sciences de l'homme, l'égide donc de la Fondation Maison des sciences de l'homme, plus particulièrement de la chaire éthique et finance, qui nous a donné l'occasion d'examiner des questions relatives à l'artificialisation des procédures, en particulier dans la régulation financière, ce qui a donné lieu à l'examen de questions un peu plus générales sur l'usage des savoirs, des théories, des modèles, des représentations dans l'élaboration artificielle de procédures. Ces questions ont été également au cœur de notre dialogue intersectoriel, comme on dit aujourd'hui, avec des professionnels du secteur. Et ils ont été importants pour notre démarche éthique d'interrogation de la justesse dans la mobilisation des connaissances et dans le traitement d'aspects de la vie sociale sur la base des connaissances. Alors, avec Mara Magda Mastei, notamment dans l'article que nous avons écrit ensemble dans la revue italienne Metabasis, nous avons été curieux de la convergence entre ces interrogations et celles que portent des débats actuels sur le transhumanisme, le post-humanisme et aussi la littérature post-humaniste influencée par le transhumanisme. Alors, dans quelques considérations initiales, je vais expliquer ce qui a motivé ce rapprochement et ce qui a suscité de nouvelles questions. Et sur le terrain proprement littéraire, Mara Magda Mastei pourra développer ses points dans la suite de la table ronde. Alors, bien sûr, il faut d'abord remarquer que l'émergence d'une famille de création littéraire, comme la fiction post-humaniste, suscite inévitablement des questions relatives à sa portée sociale. Ces questions se doublent d'une attention possible aux contributions explicites ou tacites à la critique sociale. Cette attention rendue nécessaire, dans le cas des fictions humanistes, par l'attention à des formes de vie partagée, à des évolutions des conditions de vie partagées, sera au cœur de notre propos. Plus précisément, il s'agit d'évolutions qui posent déjà question, qui prêtent le flanc à la critique, comme dans les débats autour des aspirations transhumanistes relatives à l'usage des technologies, dans les débats sur la technologie et sa place dans des sociétés de contrôle, dans des sociétés sécuritaires, dans la répression politique, dans des régimes plus ou moins autoritaires, etc. Des questions qui sont au cœur d'interrogations contemporaines importantes, de débats contemporains importants. La fiction se saisit délibérément, Mara montrera, de questions qui suscitent aussi des analyses directes ou frontales, ne passant pas par des médiations littéraires à visée artistique ou créative. C'est pourquoi j'ai évoqué des débats qui sont au fond des débats éthiques et politiques. On peut dès lors s'interroger sur la spécificité des créations littéraires, des approches littéraires qui se cherchent un chemin et qui se constituent peut-être aujourd'hui dans le champ dégager Mara, en quelque sorte, se constitue donc en une nouvelle famille de création. La fiction post-humaniste hérite des interrogations et des espoirs du transhumanisme. Elle s'intéresse donc aux transformations de la vie humaine en tant que telle et aux ambitions d'amélioration, autant qu'aux conséquences éventuellement imprévisibles qui peuvent en résulter dans la vie concrète. Comme souvent, la fiction peut être vue comme un effort pour nous rapprocher du terme possible, éventuellement prévisible, partiellement prévisible, de tendances qui sont cependant en partie occultées ou incertaines dans l'existence ordinaire. Nous nous sommes posé plus précisément la question suivante. Qu'en est-il du dialogue ou de la conversation? Il nous semble intéressant d'ouvrir un débat à ce propos parce que le dialogue, étant de plus en plus artificiel, sous l'influence conjuguée de tendances technologiques, mais aussi administratives, organisationnelles et autres, est aujourd'hui au cœur de transformations déjà avérées de la vie ordinaire. Pour prendre un exemple simple, notre manière d'interagir avec le téléphone pour obtenir des renseignements n'est plus du tout la même qu'il y a, disons, 25 ans. De plus, le dialogue explicite ou tacite avec le lecteur, avec la critique, dans le cadre de l'œuvre littéraire, est au cœur de la compréhension, y compris de la compréhension théorique de ce qu'est l'œuvre littéraire, ce qui est à interroger. Le foyer d'évolution que constitue le dialogue est aussi un nœud de problème. Alors, nous avons, dans une réflexion préliminaire, essayé d'identifier quelques grandes sources de tension qui expliquent pourquoi le dialogue est aujourd'hui un nœud de problème. Par exemple, on peut penser à l'appel à la concertation et à la participation, qui est de mieux en mieux perçu comme un élément important de la dynamique démocratique. Mais en même temps, les démocraties favorisent des formes d'organisation qui souvent limitent ou prétendent limiter la portée de la discussion critique sur l'organisation collective. C'est par exemple le cas pour l'adoption de modèles de marché en économie, dans lesquels il faut simplement s'adapter au marché plutôt que discuter, critiquer, etc. Ou bien la réintroduction de systèmes hiérarchiques par le recours à du parangonnage, à des classements, dans toutes sortes de domaines de la vie sociale. Une autre source de tension, c'est qu'il est constamment question dans la vie sociale de développer l'autonomie, voire une certaine forme d'indépendance, de mise en capacité, par une responsabilisation qui est perçue habituellement comme intimement liée au dialogue, à la manière de s'exprimer, à la manière de se concerter, à la manière d'intervenir auprès de systèmes administratifs, professionnels, etc. Mais les outils de communication et d'organisation qui sont déployés à cette fin semblent renforcer l'interdépendance, sans doute au préjudice de la prise de décision autonome. Troisièmement, le souci d'une concrétisation de l'autonomie à travers le dialogue libre et responsable se nourrit d'aspirations à la liberté. Mais les technologies et les formes d'organisation qui se développent, notamment dans cette perspective, jouent un rôle croissant dans des pratiques de gouvernance autoritaire qui passent par la régulation uniformisante, des modèles de marché brutalement normalisateurs et envahissants au-delà de la sphère marchande traditionnelle et inscrits en porte-à-faux par rapport à un progrès social hérité d'autres strates de dialogue en société. On peut penser aussi à un encadrement administratif envahissant qui semble souvent favorisé par les technologies. aux extrémités, ces technologies et ces formes d'organisation jouent aussi un rôle dans la répression pure et simple, en accentuant les possibilités de suivi et de contrôle des démarches personnelles et des échanges dans des groupes, comme on le voit par exemple dans de nombreux pays à travers les modalités nouvelles de déploiement de la répression contre les opposants politiques, réels ou potentiels. Alors, pour ces différents foyers de tension, bien sûr, nous sommes curieux de ce que la fiction peut apporter. En même temps, la fiction n'est jamais automatiquement porteuse d'une critique sociale. Elle révèle des possibilités, elle nous apprend des choses intéressantes, mais elle n'est pas automatiquement porteuse d'une critique sociale. Et si l'on cherche partout de la critique sociale, on risque de développer un simple a priori. On peut dès lors s'interroger sur les conditions qui disposent la fiction à accueillir d'une manière plus particulièrement bienveillante certains aspects des approches critiques de la société. C'est une question de grande ampleur et nous ne pouvons pas l'aborder frontalement aujourd'hui. Cependant, à propos d'un genre émergent particulier, il n'est pas dénué de sens de faire un certain inventaire de ses affinités avec des questions relatives à l'évolution de la vie sociale. De même que la tragédie du grand siècle interrogeait, entre autres choses, les vertus et les attachements dans leur relation avec le pouvoir, de même que le roman naturaliste étudiait à sa manière l'impact des conditions socio-économiques sur les liens sociaux, la fiction post-humaniste d'aujourd'hui semble prendre à bras le corps certaines de nos interrogations contemporaines sur l'amélioration humaine, sur la transformation de la vie humaine par l'effet des évolutions technologiques et des changements dans l'organisation sociale. Elle semble être attentive à certains aspects de la question d'un renouvellement de la condition humaine et elle organise en quelque sorte la rencontre entre des aspirations disparates et potentiellement contradictoires. Donc nous voudrions plus particulièrement prêter attention à sa prise en charge des formes du dialogue. Cette prise en charge est-elle développée, pertinente, évolutive? Et à quelles conditions peut-on s'attendre à trouver dans la fiction un apport original aux réflexions en cours dans le monde contemporain? Je vais laisser Mara aborder les questions du rapport entre les pratiques ordinaires et la science-fiction et la fiction post-humaniste. Simplement, je voudrais mettre en avant une question qui nous a guidés, c'est celle de la possibilité qu'après tout, les pratiques ordinaires sont peut-être en avance sur la science-fiction, en avance sur des projections vers l'avenir qui ont été au cœur de la science-fiction. Et donc, on peut se demander si la fiction post-humaniste n'a pas à nous révéler des choses sur les pratiques ordinaires qui, finalement, d'une certaine façon, dépassent la fiction. Au sens que prend cette expression lorsque l'on compare la réalité des pratiques ordinaires et certaines formes de projection dans le futur qui ont été souvent le fait de la littérature. Alors de mon côté, c'est une question que je me pose souvent à propos des pratiques institutionnelles. Le langage des institutions n'est pas très bien compris. C'est ce que j'ai essayé de rappeler dans un article à paraître dans la revue des sciences humaines. Nous ne comprenons pas non plus très bien les conditions qui donnent sens au langage des institutions, ni l'attitude à tenir lorsque les conditions d'un sens du langage institutionnel ne sont pas réunies ou ne sont plus réunies. Nous avons aussi du mal à cerner ce qui se joue dans le rapport entre le langage institutionnel et ses destinataires. À qui s'adresse-t-on vraiment? Par exemple, dans des textes doctrinaux des institutions, y a-t-il quelqu'un qui pense ? Y a-t-il une entité qui pense ? Y a-t-il une pensée collective ? À qui s'adresse-t-on ? Que peuvent comprendre les destinataires ? Il y a à tous ces niveaux des formes importantes d'artificialisation qui posent question. Et l'artificialisation du discours va bien sûr de pair avec une artificialisation des rapports humains dans le cadre de médiations technologiques et institutionnelles qui donnent une place importante à la communication, à la concertation ou au dialogue. L'un des phénomènes les plus remarquables à cet égard est sans doute l'essor des technologies d'organisation du dialogue, par exemple les dispositifs de structuration de la décision, d'organisation de la concertation, système clé en main de participation, les méthodologies et les technologies de facilitation de la décision dans les organisations. Toutes ces choses qui, bien sûr, peuvent sembler antipathiques puisque nous aimons nous représenter le dialogue comme libre et ouvert. Certaines caractéristiques importantes du dialogue tiennent au fait qu'il peut rester libre et ouvert. Mais en même temps, cette volonté d'organisation est aujourd'hui omniprésente et bien sûr, elle est systématiquement liée avec liée à des soucis de maîtrise de risque, de maîtrise des évolutions, etc. D'une certaine façon, cela a toujours existé. De la répartition des voix dans la démocratie grecque à la conception du dialogue social dans le paritarisme des Trente Glorieuses et jusqu'à la prévision des interventions orales dans les congrès en passant par les règles de la discussion dans les universités médiévales, la parole a souvent été artificiellement façonnée, divisée et contrôlée. Ce qui est relativement nouveau est d'un côté l'élaboration de méthodologies codifiées, d'un autre côté la dépendance accentuée des protocoles par rapport aux théories et aux doctrines, comme on le voit dans le cas de la régulation de systèmes complexes, comme la régulation financière. Et puis, bien sûr, il y a l'évolution technologique qui décuple les possibilités, en particulier les possibilités de contrôle et de maîtrise. L'artificialisation, avant d'être une affaire technique, est d'abord une affaire de substitution, de présomption, tirée d'une mise en forme théorique de la réalité à maîtriser, à l'ordinaire de la vie quotidienne et des interactions familiales. Aborder ce champ, c'est s'astreindre à penser le discours de l'altérité et le rapport du discours à l'altérité. Alors, l'institution, bien sûr, ne relève pas du radicalement autre et, de fait, nous nous autorisons volontiers à en développer une vision anthropomorphe en la dotant d'intentions, de projets, de connaissances, ou encore de moralité ou d'immoralité, de vertu, etc. Nul n'ignore cependant que cette vision des choses a ses limites. L'institution ne réagit pas comme nous, ne parle pas comme nous, elle ne nous comprend pas à la manière dont nous nous comprenons, et elle ne comprend pas à notre manière le discours que nous lui adressons. La moralité, si l'on peut parler ainsi, est faite pour les hommes, mais elle échappe en grande partie à la volonté et au contrôle des personnes individuelles, sans pour autant se laisser ramener à une loi qui vaudrait en elle-même et par elle-même, soustraite aux altérations imposées par les hommes. En même temps, le durcissement des contraintes technologiques et institutionnelles organisationnel peut conduire à un sentiment de perte de contrôle, au sentiment d'un enfermement dans des routines, dans des procédures que l'on ne maîtrise pas, d'une façon qui avait déjà été explorée dans les fictions de Franz Kafka en particulier. Le sentiment d'altérité, que j'ai comparé à l'altérité face à la divinité dans mon article, en sollicitant un texte d'Augustin d'Hippone, tiré de son commentaire des psaumes, voisine de façon décisive avec le sentiment maintenu d'une grande malléabilité, puisque les institutions sont des enjeux d'organisation, des enjeux politiques, des enjeux de transformation sociale, nous pouvons agir sur elles. Et c'est là une tension constitutive, sans doute aujourd'hui, de notre rapport aux institutions. Et je pense qu'il faut certainement écouter ce que la littérature peut nous dire sur ces figures contemporaines du contrôle, autrement dit, dans un autre vocable, certaines figures contemporaines de la liberté ou de la limitation de la liberté.